écoute la chronique du grand large de Patrick Simon et cette chronique n'est pas en direct. Pour une fois, elle est enregistrée.
Bonsoir, je vous appelle depuis le bassin d'Arcachon, car j'ai une petite maison à côté de la dune du Pila. Et un de mes amis et voisins m'a envoyé un message tout à fait révélateur et qui en dit long sur la tendance française à tout fiscaliser. Voilà ce dont il s'agit. Toutes les communes du bassin d'Arcachon sont confrontées au problème de l'endettement et des difficultés financières. Dans la commune de Lateste, qui comprend la fameuse dune du Pila, on a plusieurs entreprises publiques au bord de la faillite, et c'est le cas de la Cobas. Aux élections municipales récentes, les électeurs ont choisi un nouveau maire, le général Thierry Guéchaud, qui n'est pas de gauche. Mais que fait-il pour éviter la banqueroute de l'intercommunalité? Alors l'intercommunalité, c'est Arcachon, Lateste, Gujan-Mestras, Biganos et quelques autres communes. Que fait-il donc pour éviter la banqueroute? Eh bien, il fait voter une forte hausse de taux, plus de 38%, pour les taxes foncières et les taxes d'habitation. C'était indispensable, dit-il, pour que la société d'économie mixte, la COBAS, reste à flot. Ainsi, la solution quand on a un problème financier le remède en France, c'est de taxer plus pour combler le trou. Un trou, on taxe. En somme, la solution française au problème d'endettement, c'est la solution socialiste. Augmenter les impôts. Alors, selon le journal local, la Dépêche du Bassin, le petit journal local, cette mesure a été critiquée par certains élus qui la juge trop précipitée ou trop injuste. Ne pensez-vous pas, disent-ils, qu'il faudrait rechercher des économies et de la sobriété au pays qui a le record du monde des prélèvements obligatoires? Puisqu'il s'agit de sécuriser les équilibres financiers en remboursant la dette et de garantir la continuité du service public, et de quoi parle-t-on? À quoi cela sert-il? Ça sert à rembourser, dit le journal, des investissements. 42 millions pour les écoles, 39 millions pour l'autoroute, 16 millions pour la rénovation des voiries dans les zones d'activité économique, etc., etc. Vous ne voulez quand même pas brader tout cela, nous dit-on. Il existait pourtant une autre solution, plus libéral et moins socialiste. Réduire les dépenses ou les étaler dans le temps. Moins pour les écoles, même si on étale dans le temps, moins pour l'autoroute, moins pour la voirie et surtout couper dans les services de fonctionnement. Alors, on peut m'objecter que ça ne serait pas réaliste. Pourtant, il existe au moins un ou deux endroits où cette politique est pratiquée. Il s'agit de Nice et de Cannes, dont les maires ont adopté de telles mesures consistant entre autres à réduire leur train de vie, à augmenter la productivité des personnels, voire même à muter les improductifs. Prenons l'exemple d'Éric Ciotti à Nice. Que fait-il? Eh bien, il va vendre le siège de la métropole de Nice à Paris. À quoi bon avoir un siège à Paris? Il va réduire le nombre des véhicules utilisés par le personnel de la métropole, réduire la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, car il y a beaucoup de résidences secondaires à Nice. Et ceci stimulera les achats et les investissements dans l'immobilier. Il va baisser les indemnités du maire, sa propre indemnité, et de ses adjoints. Il ne va pas remplacer certains fonctionnaires partant à la retraite. Il va se poser la question de la pertinence des emplois, faire un audit sur certains postes de ressources humaines, augmenter le nombre de policiers, oui, mais baisser le budget de communication et le nombre de postes pour la communication, et faire des économies dans les services de collecte, de transport et d'eau, ce sont les régies qui coûtent très cher à une commune. Alors Éric Ciotti ne s'est pas encore posé la question de privatiser certains services, comme l'eau, comme l'enlèvement des ordures ménagères, par exemple, comme Jacques Chirac l'avait fait à Paris. Une partie de l'enlèvement des ordures ménagères est assurée par des entreprises privées. Ou encore, autre mesure possible, faire la chasse aux arrêts maladie de complaisance, plus nombreux dans le secteur public que dans les entreprises privées, et supprimer beaucoup de subventions à certaines associations, notamment associations écologistes. En bref, il y a beaucoup de possibilités pour réduire les dépenses des mairies et des services publics et pour baisser la fiscalité, car il y a plein de possibilités de baisse à faire dans les services. C'est ça l'autre solution, la solution libérale aux difficultés. Et évidemment, c'est la meilleure solution. C'était Patrick Simon. Merci de m'avoir écouté.
Tout de suite, la suite du Libre Journal du lundi soir, dirigé par Thierry Lenz, les Carolingiens et leurs épouses.
Bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, il est 19h38 et nous allons passer un peu plus d'une heure vingt avec un médiéviste que nous avions déjà reçu il y a 3 ans, c'est dire s'il nous avait manqué, Laurent Theis. Laurent Theis, vous êtes ancien élève de l'ENS, vous êtes agrégé, docteur en histoire, vous avez enseigné à la Sorbonne, mais vous avez choisi ensuite une autre voie puisque vous avez été pendant de nombreuses années secrétaire des débats à l'Assemblée nationale, et lors de votre venue il y a 3 ans, nous avions fait la moitié de l'émission sur vos souvenirs de l'Assemblée nationale. Et puis, est-ce que le poste de secrétaire des débats vous laissait du temps ou pas? Je ne sais pas. Vous avez été aussi éditeur, et vous êtes toujours éditeur, chez De Noël, chez Talendier, chez Fayard, et désormais chez Perrin. Vous êtes membre du comité de rédaction de l'Histoire et de Commentaires, la revue de Jean-Claude Casanova, enfin, patronné maintenant par Jean-Claude Casanova, et vous êtes, on ne peut pas le cacher à nos auditeurs, secrétaire général des prix et bourses de la Fondation Napoléon. Alors vous avez publié une 30aine d'ouvrages qui concernent à la fois votre passion pour le Moyen-Âge, le monde médiéval, on parlera de cela ce soir, mais vous avez aussi toute une palette protestante, si je puis dire, puisque vous avez été président de la Société d'Histoire du Protestantisme pendant de nombreuses années. Vous êtes maintenant président honoraire, ce qui vous permet d'observer les travaux de la Société d'un œil beaucoup plus aimable qu'autrefois. Et donc votre grand homme, c'est Guizot, hein, sur la période du XIXe siècle, mais comme là aussi nous en avions un peu parlé il y a 3 ans, on approchait du bicentenaire de sa mort. De sa naissance. Donc nous allons nous consacrer aujourd'hui à votre passion du Moyen-Âge. Vous avez publié des biographies, Clovis, Robert le Pieux, Charles le Chauve, Dagobert, tout ça est dans le désordre. Et vous publiez ces jours-ci chez Perrin, Reine carolingienne, Berthe, Hildegarde, Judith et les autres, 751-987. Donc c'est de ce livre dont nous allons parler, mais je crois qu'on peut profiter aussi de l'occasion pour réviser un petit peu nos connaissances sur les Carolingiens, parce que c'est une des quatre races, comme on disait autrefois, qui a régné sur la France, et celle-ci n'est pas la moins importante, puisque parmi elles, évidemment, Charlemagne fait figure de, est-ce que j'oserais dire, tête de gondole, Laurent Theis.
Le grand patron.
Le grand patron. Alors, un peu de chronologie. Les Carolingiens, vous avez quelques minutes pour nous dire, ils viennent après quoi, ils viennent avant quoi, ils commencent quand et ils se terminent quand.
Alors, bonsoir Thierry Lenz.
Bonsoir Laurent.
Les Carolingiens ne s'appellent comme ça qu'à partir du moment où un certain Charles Martel, Karl, un prénom qui vient, on ne sait pas d'où, qui apparaît sur la table de l'histoire sans prévenir. Et c'est au tournant des 7e et 8e siècles, donc dans les années 680-720, que cette dynastie, la dynastie des Pépins, on les appelle d'abord les Pipinides, avant de les appeler Carolingiens, cette dynastie, ce groupe, j'allais dire ce clan, et je pourrais même dire ce gang, a peu à peu supplanté les Mérovingiens, dont le patron, pour le coup, était Clovis, et en tout cas le premier qui était historiquement une consistance, et peu à peu, cette dynastie des Pipinides a pris le pas sur l'épuisement mérovingien, car toute dynastie, comme toute maison, finit par se transformer et quelquefois par disparaître au profit d'une autre construction. Et c'est donc ces maires du palais qui, peu à peu, ont subsumé, remplacé les Mérovingiens dans l'exercice réel du pouvoir, jusqu'à se substituer à eux en 751, quand la dynastie mérovingienne est vraiment à son point le plus bas, et que son dernier représentant, qui se prénomme Thierry, a été renvoyé, après Tonsur, dans un monastère où il a fini ses jours. À partir de là, c'est une royauté sacrée, ce que n'étaient pas les Mérovingiens, qui s'est installée pour près de 3 siècles dans l'Occident en voie de christianisation.
Alors vous dites qu'elle n'était pas sacrée, mais Clovis pourtant a, dit-on, l'origine de son pouvoir dans un baptême.
Oui, mais entre le baptême et le sacre, il se passe beaucoup de choses. Le baptême est une réalité acquise, qui est assez bien documentée pour le 5e siècle, mais le sacre, c'est tout autre chose. Et tout l'art des Carolingiens a été de s'affilier aux Mérovingiens en transformant le baptême de Clovis de Reims en un sacre, qui est quelque chose de très différent. Le baptême, c'est pour tout le monde. Le sacre, ce sont les rois d'Ancien Testament. C'est David, c'est Salomon.
Ouais. L'Ancien Testament, on le verra d'ailleurs, qui a une grande importance, notamment sur la façon dont on se prénomme, ou dont on se nomme d'ailleurs.
Mais c'est encore vrai aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, mais là particulièrement, les prénoms bibliques sont assez nombreux.
C'est un vivier de noms et de modèles.
Ouais. Donc vous placez le début des Carolingiens à Charles Martel.
Voilà.
Et pourtant, vous commencez en 751.
Et bien parce que Charles Martel n'a pas été roi. Il est maire du palais, il est désigné comme duc ou même comme prince des Francs, mais il a laissé subsister une espèce de zombie, allons-y, qui était un roi mérovingien, ces rois qu'on a appelés fainéants. Fainéants ne veut pas dire qu'ils ne sont paresseux, ça veut dire qu'ils n'ont plus de capacité à agir. Ils ne font rien. Ils ne font rien parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et quand cette veine s'est épuisée complètement, alors le fils de Charles Martel, Pépin III, le bref, a pris la place du roi en consultant le pape, et le pape Zacharie a répondu que celui qui exerce la réalité du pouvoir en est aussi la possession.
D'accord. Et donc, les grands rois de cette dynastie, donc, qui dure jusqu'à pratiquement au début du XIe siècle.
Jusqu'en 987, date à laquelle les Capets et les Capétiens succèdent aux Carolingiens, comme les Carolingiens avaient succédé aux Mérovingiens, dans d'ailleurs des conditions qui sont relativement comparables.
Les grands rois de cette dynastie carolingienne, alors on va laisser Charlemagne de côté, mais ce sont donc Pépin, dit le bref.
Le père.
Le fils.
Le fils, oui, Louis le Pieux. Le petit-fils, Charles le Chauve.
Charles le Chauve, dont vous nous avez donné une très très belle biographie chez Gallimard il y a 3 ans.
Je vous en remercie. Et peu à peu, le nombre de ces rois s'est accumulé, s'est étendu, de sorte que les successions deviennent compliquées et que du coup, on perd la trace de ces princes. Enfin, il faudrait quand même citer le fils aîné de Louis le Pieux, Lothaire Ier, qui est encore un empereur qui pèse lourd. Un autre qui pèse lourd, et pour cause, s'appelle Charles le Gros. C'est le dernier qui, tout à fait à la fin du IXe siècle, a réussi à réunir en totalité, pour la dernière fois, l'héritage complet de Charlemagne. Et l'héritage complet de Charlemagne, c'est ce qu'on appelle la Francie occidentale, la pré-France, si vous voulez. C'est la Germanie, pré-Allemagne. C'est aussi l'Italie, c'est aussi l'Aquitaine, et c'est aussi la domination au-delà du Rhin, sur la rive droite du Rhin, vers l'est, jusqu'à l'Elbe, de peuples et de peuplades qui reconnaissent la domination franque. C'est donc un ensemble, excusez du peu, qui est au moins aussi étendu que celui de Napoléon. Napoléon ouais. est un empereur du XIXe siècle.
Et alors, est-ce que ces Francs ont conscience d'être des Francs? Enfin, la question est un peu...
Ils ont plus que conscience. Ils ont pour devise et pour rappel dans leur liturgie, vive en gloire au Christ qui aime les Francs. Les Francs sont les enfants chéris du Christ, et c'est à eux que le Christ, que la divinité, a conféré le devoir de conduire les peuples de la terre, après les avoir christianisés, vers la Jérusalem céleste, vers le salut, qui ne se trouve qu'en Christ et dans son Église, qui le représente.
Et alors, ils ont un lien avec l'Église catholique très fort. Est-ce un lien de subordination ou est-ce qu'on marche parallèlement?
C'est un lien de complémentarité et de coopération. Et une des habiletés, déjà des premiers francs, Clovis, au fond, est celui qui a conclu une alliance forte entre l'Église romaine et sa nouvelle dynastie mérovingienne. Et les Carolingiens l'ont repris à frais nouveaux, de façon beaucoup plus étroite, en ayant les moyens, sinon d'imposer, tout au moins de diriger l'Église, la hiérarchie ecclésiastique, dans un chemin qui lui fut favorable. De sorte que les deux puissances, l'une terrestre, l'autre spirituelle, se sont épaulées. Se sont épaulées d'autant mieux que, comme nous l'avons dit, les rois étaient sacrés. Et que donc, s'ils avaient un pied sur la terre, ils en avaient un autre dans le ciel déjà, puisqu'ils recevaient le sacre à l'égal d'un évêque. Donc le roi sacré, est quelque chose qui n'appartient plus complètement à la société laïque. Il fait la jonction, comme le fait le pape de son côté, entre Dieu et ses créatures.
Le premier sacre, c'est Pépin.
C'est Pépin en 751, par l'évêque Boniface, qui est un missionnaire d'origine anglo-saxonne. Et ce sacre a été renouvelé à Saint-Denis, 3 ans plus tard, en 754, par le pape Étienne II, venu tout exprès. Et c'est à cette occasion que la reine Berthe, au grand pied,
oui.
comme elle a un grand pied, je pense que nous allons reparler
d'elle. Bien sûr, nous allons parler d'elle tout à l'heure.
A reçu elle aussi une bénédiction qui n'existait pas pour les reines précédentes.
Ouais. Et bon, alors on parlera de leur règle de succession, etc., parce que c'est assez intéressant, parce qu'on est, avant la loi salique, si l'on peut dire, à
on
ce moment-là.
On est après et avant. Ouais. On est après parce qu'elle a été écrite avant, mais elle n'a servi véritablement, en réalité, que pendant la guerre de Cent Ans.
Ouais. Alors, Pépin le Bref, fondateur de la dynastie, évidemment...
Pas fondateur de la dynastie, fondateur de la royauté.
De la royauté. Lui-même fils de Charles Martel, si j'ai bien retenu. Petite question comme ça pour s'amuser un peu. Charles Martel a-t-il vraiment arrêté les Arabes à Poitiers?
Il a arrêté les musulmans, on n'aurait pas dit les Arabes. Il y a eu une rencontre qui n'a pas été une bataille ravageuse, mais on a quand même, les archéologues pensent avoir retrouvé certains ossements et certains même fourniments militaires dans une localité à 15 km au sud de Poitiers. Et donc il y a eu un coup d'arrêt. Il y en a eu d'autres avant. Il y en a d'autres après. Et puis, Charles Martel a eu aussi la main très lourde quand il s'est agi de ramener dans la vraie foi des provinciaux qui s'en écartaient. Il a été un grand coupeur de tête. C'est un homme très dur.
Très dur.
Mais il le faut quelquefois, ouais. paraît-il.
Et Pépin? Pépin est-il...
Pépin a reçu une instruction que certainement son père n'avait pas, parce qu'on a senti venir l'accession à la royauté. Et qu'un âne couronné, un roi ignorant est un âne couronné. Donc, ces princes ont reçu une éducation, notamment à la basilique de Saint-Denis, dont Charles Martel était dépourvu. Donc, Pépin le Bref assume mieux une royauté que n'aurait pu le faire Charles Martel, dont on voit très bien qu'il a hésité.
Mais alors, il a eu une bonne éducation, mais apparemment, il ne l'a pas transmise à son fils, puisque la réputation de Charlemagne, c'est de ne pas savoir lire et écrire.
Ah, détrompez-vous. Charlemagne est un bon lecteur. Il est un bon lecteur dans une langue dont la littérature commence à émerger, qu'on appelle le roman, dans une autre langue qui se pratique dans la vallée du Rhin et un peu au-delà à l'est, qu'on appelle le francique, qui sont l'un l'ancêtre lointain du français, l'autre, l'ancêtre moins lointain de l'allemand, mais il ne savait pas écrire. Il faut comprendre que dans ces hautes époques, et même dans un Moyen-Âge plus avancé, la lecture et l'écriture sont deux disciplines complètement séparées. Et que le roi Charlemagne n'a pas besoin d'écrire parce qu'il a une armée de clercs qui le fait pour lui. Mais il s'est entraîné un peu, il avait un cahier sous son oreiller, sous son matelas, où il essayait de s'entraîner, mais ça n'a jamais donné grand-chose. En revanche, il savait lire et surtout il savait parler. Et à l'époque, et pour longtemps encore, la transmission du pouvoir se fait par l'oral. L'écriture n'est que la transcription, la saisie, si je puis dire, comme en informatique, d'une parole royale qui, elle seule, a l'autorité. Si on n'a pas entendu ce qu'a dit le roi, ce qui est écrit ne vaut rien.
D'accord. Et la documentation sur ce règne de Charlemagne et son aisance orale est suffisante pour qu'on puisse l'affirmer ? Parce que je sais, pour avoir lu vos ouvrages, que vous commencez toujours par nous dire c'est très difficile d'écrire l'histoire de Clovis, de Louis le Pieux, de tout le monde. C'est toujours difficile d'écrire l'histoire, mais là particulièrement parce qu'on manque de matière. Si on prend l'ensemble des Carolingiens, qu'est-ce que c'est l'état des sources ? On a quoi pour...
Alors l'état des sources est beaucoup plus important que pour la dynastie précédente, pour deux raisons. La première raison, qui est une raison toute matérielle, c'est que les Mérovingiens n'écrivaient pas moins. Écrivaient largement. Mais le support sur lequel ils écrivaient était du papyrus. Et le papyrus a fondu, si j'ose dire, comme neige au soleil, à travers les siècles, puisque c'est une matière qui ne résiste ni à l'humidité, ni à la chaleur. Et donc, les documents mérovingiens qui subsistent, on a quelques papyrus, mais très peu, ont tous été recopiés. Et n'ont été recopiés que ceux qui étaient jugés dignes de l'être. Tandis qu'à l'époque carolingienne, on commence à écrire sur le parchemin. Et le parchemin est une matière beaucoup plus résistante, qu'on se procure beaucoup plus facilement, parce que la liaison avec le bassin méditerranéen a été coupée par les musulmans. Et donc, le papyrus ne pousse pas sur les bords de la Loire, comme vous savez, et encore moins sur les bords de la Somme. Donc, il a fallu se tourner vers un autre matériau qui s'est révélé beaucoup plus pérenne. Et à partir de là, on a pu écrire plus facilement. Et la deuxième raison, c'est que les Carolingiens, pour se légitimer dans l'histoire, ont procédé à un retour vers l'Antiquité romaine qu'ils ont réinterprétée à leur façon, et aussi pour faire concurrence aux Byzantins, qui sont la grande force contemporaine de l'époque. Et donc, le retour à la littérature a provoqué, si j'ose dire, une activité d'éditeur, ou de journaliste, pour aller même dans l'anachronisme, qui a fait qu'on s'est ressaisi du passé littéraire, juridique aussi, poétique, romanesque, de l'époque romaine, notamment de l'Antiquité tardive. Donc ce double mouvement de capacité d'écriture et de conservation et de retour à une écriture réellement assumée a permis de composer une documentation dont on estime avoir conservé peut-être 10% de ce qui a été produit. Or, il faut imaginer, pas seulement imaginer, il faut constater que les Carolingiens ont écrit comme jamais avant eux et comme jamais après eux pendant au moins 2 siècles. Donc il y a là, si j'ose dire, une fenêtre ou une porte-fenêtre très largement ouverte sur une documentation considérable dans beaucoup de domaines. Un évêque comme l'évêque Incmar de Reims, qui est une des très hautes figures de la société de l'élite carolingienne, a écrit des centaines, pour ne pas dire des milliers de pages. Or, il faut penser qu'écrire, ou même dicter, on n'a pas de bureautique, l'éclairage est très faible, les calames, les plumes, sont des plumes de roseau, quelquefois avec une pointe de fer, mais qui s'usent très rapidement. L'encre, il faut la fabriquer, c'est une espèce de mélasse. Et on a des armées de clercs, de femmes aussi, de clercs jeunes, si j'ose dire, qui passent leur temps et leur nuit et leur jour à recopier, à écrire, de sorte que nous avons des pinceaux de documentation. Nous connaissons certains événements, certaines personnes de très près, d'autres qui nous échappent parce que les circonstances n'ont pas été réunies pour réunir la documentation qui nous éclairerait aujourd'hui. Donc on a suffisamment pour reconstruire, pour reconstituer, mais on n'a pas suffisamment. Heureusement pour les historiens comme moi, on en fait comme le tour en quelques années.
Oui, et beaucoup ont été publiés dans les siècles précédents, traduits, retraduits.
Bien sûr. Le 19e siècle, notamment les Allemands, ont fait un très gros effort de ressaisie de ces documents qui avaient été un peu oubliés parce qu'il faut constater que l'époque carolingienne n'a pas eu bonne presse après qu'elle a disparu, notamment entre les 13e et 17e, 18e siècle. Ce sont les barbares.
Ben oui. Oui, et les grands rois, Philippe Auguste, Philippe le Bel, Saint-Louis, évidemment, sont en vedette, mais voilà. C'est hors de votre période. Il y a toujours cette coupure entre le haut et le bas Moyen-Âge.
Oui, il y a une coupure entre le haut et le bas Moyen-Âge pour des raisons physiques. C'est-à-dire que comme ça commence à la fin du 5e siècle et qu'elle se termine au début du 16e, il faut des athlètes autrement solides que moi. Malgré tout, quand nous travaillons sur l'époque carolingienne, nous nous inquiétons du regard que comportaient les successeurs, comme je vous le disais, sur cette période. Certains s'en sont servis, Charlemagne a été très utilisé, mais évidemment, Charles le Chauve un peu moins, et quand nous parlons de Louis V ou de Louis III, ça ne sert de rien pour les générations qui suivent.
Louis V, surnommé le fainéant,
Lui aussi, parce qu'il avait, il a été couronné à 16 ans, il est mort à 19.
Ouais. Alors, on ne peut pas.
On peut pas lui demander plus.
Voilà, comme vous nous l'avez indiqué. Et alors justement, continuons à badiner un peu tous ces surnoms. Le bref, le chauve, le gros, le fainéant, au grand pied, etc. Est-ce que ce sont des surnoms contemporains? C'est-à-dire, est-ce que Louis V a su qu'on l'appelait le fainéant?
Ah non, il n'a pas eu le temps de le savoir.
Oui, alors prenons-en un qui a vécu, le chauve par exemple, c'est parce qu'il était chauve?
Il y en a trois dont il est avéré que ça correspondait à une particularité physique et que ça leur était attribué, ou de leur vivant, ou aussitôt après en tout cas, véritablement de façon contemporaine. Alors prenons les rois, Pépin le Bref, en effet, n'était pas grand. Ça se passe d'explication.
Oui, je peux vous taquiner un peu, mais on le sait comment?
Ah bien parce que les contemporains, parce qu'il y a un sens de l'humour chez ces Carolingiens, il y a ce qu'on appelle des sottis, c'est-à-dire au fond de la caricature, du théâtre, de la manière soit d'Aristophane, soit de Rabelais, comme on voudra, qui se moquent. On peut se moquer des rois, dans une certaine mesure. Et leurs adversaires politiques, parce que la politique a tous ses droits, leurs adversaires politiques ne manquent pas de les épingler, de ce point de vue. Charles le Chauve était assurément chauve. Et d'ailleurs, lui-même n'en a pas souffert, visiblement. Charles le Gros, Carolus Crassus, il était gras. Il était gras comme Louis VI le Gros. Et Louis VI le Gros, lui aussi, qui est donc du XIIe siècle, a été surnommé de son vivant. En revanche, pour Berthe au Grandpied, nous n'avons pas de témoignage avant la deuxième moitié du XIIIe siècle, dans une chanson de geste qui n'a pas du tout valeur de preuve.
Oui. Alors, d'où vient cette... on ne peut pas le savoir, mais est-ce qu'elle avait des grands pieds? Est-ce qu'elle chaussait du 48, par exemple?
Berthe au grand pied s'écrit au singulier. C'est le grand pied.
Ah oui. Donc ça veut dire qu'elle fait de grandes enjambées?
Ça voudrait dire, d'après des folkloristes ou des anthropologues, qu'elle était la première reine bénie par le pape. Elle a été la première reine à être, d'une certaine manière, consacrée, même si elle n'a pas été sacrée en forme. Mais les autres le seront à sa suite. Et donc, elle avait... Avoir un grand pied, qu'on appelle aussi pied de loi, les chirurgiens le connaissent, c'est-à-dire un pied palmé, qui est une déformation, un handicap qui existe encore de nos jours. Vous pouvez interroger les chirurgiens, ou vous regardez les pieds de ceux qui vous entourent. C'est quelque chose qui existe. Et le pied palmé permettait, selon une tradition germanique, de faire le lien, justement, entre la terre et le ciel. Ça permettait de s'élancer. Il y avait une présomption d'avoir des ailes.
Comme un demi-canard, en quelque sorte.
Un demi-canard. Et donc, par exemple, la reine Pédocque, qui est une figure folklorique, était aussi une reine palmée. Ce grand pied serait un pied palmé, mais il n'y a pas de traces écrites assez solides avant 3 siècles, après 4 siècles après sa mort. En fait, c'est François Villon qu'on trouve. Dites-moi dans quel pays est Flora la Belle Romaine. Et puis, il y a le deuxième couplet. La reine Blanche Comélis qui chantait à voix de sirène. Berthe au grand pied, Béatrix Alice, à Ramburgis, qui est à l'Urbaine, etc. Voilà.
Et je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie que Laurent Teiss aurait pu nous la faire en latin, si je puis me permettre. Alors, Berthe au grand pied, la femme de Pépin le Bref, et donc la maman de Charlemagne.
Exactement.
Et donc Charlemagne.
Oui.
D'où vient cet individu à une époque où, au fond, les frontières ne sont pas connues, on se déplace difficilement, on ne sait pas trop où il est né, à Thionville, à Aix-la-Chapelle, ailleurs.
Je crains que ce soit plus Francfort que Thionville.
Oui.
Mais je ne fais faire de
personne. Il y a une légende lorraine qui dit qu'il serait né à Thionville, dans la villa qu'il possédait.
Mais assurément, il y avait là un domaine carolingien, même déjà mérovingien, de très grande ampleur. Et Thionville est une capitale carolingienne. Et il faut féliciter tous les Thionvillois.
Oui. Alors, Charlemagne.
Charlemagne ne sort pas de n'importe où.
Ouais.
Il est le petit-fils du prince des Francs, Charles Martel, qui avait déjà rassemblé un ensemble très considérable d'avantage de peuples que de territoires. À l'époque, on raisonne davantage en peuple, en population, car comme vous le disiez très bien, comme toujours, les frontières sont mouvantes et les peuples se déplacent encore. La sédentarisation est un processus lent, comme la christianisation elle-même. D'ailleurs, ça va de pair, parce que la création des évêchés et des cités, des paroisses et des églises provoque la sédentarisation, qui est un phénomène, je le disais, donc un peu lent. Donc Charlemagne, il est le petit-fils d'un grand prince et le fils d'un roi qui déjà s'est étendu jusqu'à être couronné roi d'Italie. Donc, voilà. Mais il est quand même hors de pair. D'abord, il est grand. Carolus Magnus, il n'est pas seulement grand par le pouvoir ou par la prestance ou par l'autorité. On a retrouvé son squelette, 1m85, 1m90.
Ouais. Donc, ce qui est immense pour l'époque.
Ce qui est immense pour l'époque. Aujourd'hui, c'est 2m10, ouais. Si je puis dire.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, il a ça. Il a sa longévité. Hein, il est roi. Les fils de rois sont rois, si j'ose dire, par le fait même. Donc, au moment où Pépin le Bref a été sacré et où Berthe a été béni, le Charlemagne, Charles, et son frère Carloman ont été eux aussi consacrés. Ils sont rois à l'âge de 10-12 ans, et lui, il le restera jusqu'en 814, ce qui est quand même très long. Ouais. Il a étendu l'autorité, non pas les territoires, mais l'autorité. Il a beaucoup fait la guerre. Il a passé une alliance avec la Haute Église extrêmement ferme. Il s'est entouré d'une cour de très haute tenue, recrutant notamment soit des Italiens, soit des Irlandais, car les Irlandais, ou les Anglo-Saxons à l'époque, sont à la pointe de la culture écrite, des sciences ecclésiastiques et de la culture générale. Quelqu'un comme Alcuin, qui venait d'Irlande, abbé de Saint-Martin de Tours, conseiller principal de Charlemagne, refondateur des ordres monastiques, est une personnalité écrasante.
Ouais.
Et aussi, j'ajoute un point qui fera plaisir peut-être à nos auditrices et à nos auditeurs, il a bien su choisir ses épouses, il en a eu 5, sans compter d'autres qui étaient des reines de second degré, de sorte que ses reines l'ont aussi beaucoup aidé, ses sœurs, ses filles. Il a vu un entourage féminin dont il a su tirer parti et cet entourage l'a poussé aussi vers la voie, vers ce qu'il y avait de meilleur en lui.
Alors,
c'est assez bien, Charlemagne.
Alors, vous savez que pendant cette émission, les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent appeler le standard, poser des questions, faire des remarques, et c'est Solange qui les accueille au standard. Et elle vient de me passer un petit papier, alors là, d'un auditeur qui nous dit que Charlemagne aurait commis le crime d'inceste avec sa sœur et que, comment dire, voilà, par le fait, il se serait servi des femmes jusque-là, puisque si je continue à lire, l'enfant qu'ils eurent était Roland. Alors, qu'en pense le médiéviste que vous êtes?
Il y a une tradition, il y a des fêtes. Les fêtes les plus marquantes, c'est qu'il a eu un nombre de filles important, au moins 5, peut-être 6, et qu'il n'a jamais accepté qu'aucune se marie. Il a toujours voulu les garder.
C'est un peu les papas qui ne veulent pas que leur fils marie, mais là, pour d'autres raisons.
Moi, je ne me range pas dans cette catégorie. Elles n'ont jamais été mariées, ce qui ne les a d'ailleurs pas empêchées de procréer, mais en concluant des alliances qui étaient des alliances qu'on ne peut pas qualifier d'illicites, parce qu'au début du IXe siècle, on n'en est pas encore une telle réglementation. Mais enfin, c'était des alliances qui étaient contractées à l'extérieur du système royal. Alors pourquoi Charlemagne l'a-t-il fait? Peut-être parce qu'il aimait ses filles, il se baignait toujours avec elles. On ne possède qu'une seule lettre conservée de Charlemagne à une de ses épouses, et il salue sa chère épouse, Fastrade, et lui ne manque pas de saluer mes chères filles qui me manquent beaucoup. Un roi au IXe siècle, c'est assez touchant.
Ouais, ouais.
Mais une des raisons plus importantes, c'est qu'il avait déjà un frère dont il s'est débarrassé en l'envoyant dans un monastère. Il avait des neveux. Et il n'a pas voulu que se créent des dynasties légitimées qui seraient parallèles à la sienne. Parce que si ses descendants directs avaient été empêchés, ou même pas empêchés, d'autres dynasties s'estimant tout aussi légitimes auraient créé ce qui est arrivé d'ailleurs aux Mérovingiens, c'est-à-dire que les Pépinides se sont alliés à eux jusqu'à les supplanter. S'il avait laissé ses filles avoir des maris qui eux-mêmes auraient dû, dont les enfants auraient même du sang royal, ouais. il aurait créé des, ouais. de la concurrence. Alors le péché de Charlemagne, c'est autre chose. C'est que il a eu des adversaires politiques, notamment chez les Lombards, et que le fait qu'il eût ses filles avec lui dans sa piscine, qu'il les chérissasse, ouais. qu'il les chérissa, pardon, de façon aussi proche, le fait aussi que dans, comment dirais-je, dans une littérature qui a fait une grande part à l'onirisme, c'est-à-dire à ce qui s'est passé pour les rois francs quand ils sont arrivés dans l'au-delà. Eh bien, il semble que Charlemagne, on dit ses adversaires un peu plus tard, aurait stationné dans ce qui n'était pas encore
le purgatoire.
Le purgatoire, et qu'il aurait été soumis à des...
Tourments.
À des tourments assez vifs pour un péché dont on ne dit pas ce qu'il est, mais qui est vraisemblablement l'inceste, non pas avec sa sœur, mais avec une ou plusieurs de ses filles. Donc ce péché de Charlemagne était repris ensuite dans la chanson de geste de Charlemagne, où on voit que Charlemagne doit endurer des difficultés à cause de ce péché qui est supposé. Quant à Roland, c'est un neveu supposé, mais dont la consistance historique est extrêmement faible. On sait qu'il était marquis de Bretagne, et il était apparenté aux Carolingiens de très loin.
Ouais. Alors, on a touché du doigt un problème qui va être, j'imagine, celui de tous les Carolingiens. C'est comment est-ce qu'on désigne le successeur ? Là, vous nous disiez, Charlemagne et Carloman ont eu maille à partir, et il a fallu que le grand écarte le petit, si l'on peut dire. Mais est-ce qu'on avait déjà une idée de la règle de succession ? Par exemple, est-ce que les femmes pouvaient succéder ?
On n'avait pas de règles, mais on avait des précédents et des intuitions fortes. Les précédents, c'était d'une part dans la succession romaine, chez les empereurs romains, donc qui s'imposait d'abord par la filiation dans les premiers temps, ensuite par la concurrence, les armes à la main. On avait aussi les précédents vétérotestamentaires, c'est-à-dire Saül, David, Salomon, Josias et les autres. Et puis, on avait aussi le fait que le fils succédait au père. L'important était d'avoir un fils. Tant qu'on avait un fils, la question se posait peu. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de transmettre au plus près les biens, les trésors, la légitimité, et qu'on ne pouvait pas les multiplier. Personne ne s'est jamais entremis pour choisir un roi parmi des concurrents. Si les concurrents s'imposaient, c'est qu'ils étaient les plus forts. Mais il n'y a pas de loi salique. Simplement, les rois francs ont pris soin de recruter leurs femmes, donc la mère de leurs enfants, ils comptent plus, on est plus mère que femme, la mère de leurs enfants, dans la haute aristocratie franque, de façon à ce que les vertus qu'elles possédaient par l'éducation ou par le sang se transmettent, et que la dynastie par les mâles soit complétée par la succession par les femmes. Des Carolingiennes ont été en revanche régentes, et désignées comme telles. Lors de la minorité de certains princes, de certains rois, eh bien les mères, les veuves, ont réussi à s'emparer du pouvoir. Quelquefois, elles ont été aussi éjectées. Il y a des rapports de force qui jouent. Mais la loi salique, il faut l'oublier pour la période carolingienne. Mmh.
Donc, cinq épouses, Charlemagne, Himiltrude, Désirée, Hildegarde, Fastrade, Liutgarde. Ce sont des prénoms qui ont complètement disparu.
Écoutez, on peut espérer qu'ils reviendront un jour.
Hildegarde un peu Hildegarde dans les pays germaniques.
Oui, les germaniques, et s'est maintenue jusqu'à présent. Mais les autres, ouais. Évidemment, ce sont des noms généralement composés qui signalent à la fois une vertu et une filiation.
Et alors, combien d'enfants en tout, Charlemagne, d'enfants, on va dire, légitimes, avec les épouses ?
Eh bien, beaucoup de filles, trois garçons, dont il n'est resté qu'un, ouais. Louis le Pieux. Uh-huh. Donc il est important d'avoir des femmes, ou une seule qui procrée beaucoup, ou plusieurs à la suite, parce que la mortalité infantile, et même la mortalité pré-adulte, est très importante.
Ouais. Je ne sais pas si on peut aller un peu, enfin, non pas dans la théologie, mais un peu dans le droit canon, qui ne l'est pas, mais bon, peu importe. Comment est-ce que l'Église vivait justement ces séparations, ces répudiations, Charlemagne répudie Himiltrude, Désirée, parce qu'elles ne lui font pas de garçon ?
Alors, c'est la question, je trouvais, la plus intéressante que j'ai eu à traiter dans ce petit livre dont vous voulez bien parler. C'est que peu à peu et assez rapidement, de l'époque de Pépin le Bref jusqu'à son petit-fils Louis le Pieux, dans ces 40-50 années-là, on voit une doctrine, d'abord une pratique, et ensuite une doctrine du mariage se constituer, qui le rend, en principe d'abord, mais en pratique ensuite, à la fois monogame et indissoluble. Charles Martel a répudié, n'a pas répudié, il a eu deux épouses concomitantes. Et c'est Charles Martel était l'enfant de la seconde épouse, mais celui qui devait succéder à Charles Martel, à Pépin de London, c'était son fils aîné d'une autre femme. Donc, polygamie. À l'époque de Pépin le Bref, et encore de Charlemagne, monogamie, mais polygamie successive. C'est-à-dire qu'on peut renvoyer sans rien demander à personne.
Ouais.
Si on est en situation de force de le faire. Si la belle famille est trop forte, on a plus de mal. Mais Charlemagne était évidemment beaucoup plus fort que la famille d'Himiltrude, et même celle de Désiré, bien qu'elle fût la fille du roi des Lombards. À partir de Louis le Pieux, qui porte son nom non sans raison, eh bien, la Haute Église a commencé à codifier, mais avec l'accord de la royauté, elle ne lui a pas imposé. On s'est aperçu qu'il était, pour la légitimité même de la succession, meilleur d'avoir un mariage en bonne et due forme, donc conforme aux Écritures, à l'enseignement évangélique, conforme aussi à la tradition vétérotestamentaire, un homme, une femme, sans possibilité de dissoudre. Et alors à ce moment-là, la liturgie et la procédure de mariage a commencé à se codifier plus fortement. Il est devenu acquis que le consentement des deux époux était également requis, même quand la fille avait 12 ou 13 ans, ce qui était l'âge habituel du mariage, et peut-être que la nubilité apparaissait plus tôt, il faut que la personne soit consentante et que ce soit acté. Il faut que le père des deux mariés, et en tout cas de la future, soit consentant. Il faut qu'une somme d'argent soit donnée par le futur mari à sa future femme, et il faut que le père de la future femme dote la future mariée. Il faut enfin que l'acte de chair soit régulièrement consommé. Alors, la stérilité, elle n'était pas présumée, elle était toujours constatée et mise du côté du mari, mais il n'y a pas de liturgie ou de règle qui, en cas de stérilité, puisse quand même s'imposer parce que l'Église est elle-même consciente que la dynastie des Francs doit se maintenir puisque c'est elle qui garantit à l'Église romaine et à la société chrétienne son assise. Mais dans le principe, il n'y a pas de répudiation, même en cas d'adultère. Il n'y a pas de remariage possible tant que l'épouse, même quand elle a été veuve, puisse se remarier. Bref, le mariage est de plus en plus codifié. Et l'avantage, c'est que la femme est promue. Le statut de la femme, le statut de la reine, devient de plus en plus solide. Quand on ne peut plus être répudié, quand on ne peut plus se marier sans consentement, quand on a un statut juridique, quand on possède des biens en propre, eh bien, on est en mesure de faire face aux aléas de la conjoncture. Et donc, cette période carolingienne est aussi une grande période de promotion des femmes en général, dans l'aristocratie, hein. Pour le reste, on n'en sait rien, et notamment des reines, et c'est pourquoi il a été possible d'écrire ce petit livre bien davantage que je n'aurais pu le faire pour les reines mérovingiennes, qui étaient souvent d'abord des étrangères, souvent d'origine servile, des esclaves, et qui étaient renvoyées, je ne sais pas pour un nom, mais enfin, dont la position était extrêmement fragile.
Mais on en parle dans les chroniques, dans les documents des reines, etc. Parce que
considérablement.
Dans votre livre, il y en a quand même quelques-unes qui vont garder leur secret, quoi.
Oui, certaines ont régné très peu de temps. Il y a des failles dans les documentations. Mais d'autres, au contraire, comme Berthe, surtout comme Judith, la deuxième femme de Louis le Pieux, la mère de Charles Chauve, la femme de Charles Chauve, Ermentrude, moins connue, Angèle Berge, encore moins connue, qui est la femme de l'empereur Louis II d'Italie, puisque l'empire carolingien est subdivisé en royautés, en royaumes différents, qui tout se coagulent pour former l'empire des Francs. Mais Angèle Berge, par exemple, était une femme extrêmement puissante, d'autant que son mari Louis II était très malade, et qu'elle l'a remplacé pour présider l'Assemblée générale, présider un tribunal, c'est notamment la fonction royale par excellence, pour mener même des guerres, pour résoudre des conflits entre rois ou entre rois et papes, pour prélever les impôts, pour se constituer une fortune personnelle très avantageuse, pour influer sur les destinées de l'Occident. Angèle Berge a été une femme dont les Italiens aujourd'hui encore pourraient vous parler. Donc ces femmes ont été en situation de plus en plus de maintenir la royauté, et on peut dire que si les Carolingiens ont tenu bon jusqu'en 987, c'est notamment grâce à des femmes qu'il faut citer, la reine Gerberge, épouse du roi Louis IV d'Outre-mer.
Ce sont des prénoms charmants qu'il faudrait réhabiliter.
La reine Emma, là, c'est un prénom contemporain, femme de Lothaire III, qui ont maintenu à la fois l'idéologie, mais aussi l'autorité d'un roi, d'un pouvoir royal qui commençait à entrer quand même en décomposition.
Oui. Est-ce qu'on a une idée de leur aspect physique ? De ce qu'étaient les canons de beauté à ce moment-là, de la façon dont elles s'habillaient, se présentaient à la cour. Est-ce qu'il y avait une tenue royale pour la reine, je sais pas, des honneurs quelconques, un petit sceptre ou que sais-je encore?
Alors, il est certain qu'elle possédait un diadème, un bandeau. Vraisemblablement, dans certains cas, une couronne. La couronne, au fond, ce sont des arceaux croisés avec un tissu qui les maintient, et des pierreries qui les ornent. Alors nous avons des descriptions physiques, mais qui sont des descriptions en partie rhétoriques. Et les reines carolingiennes ont suscité des poèmes, en pagaille. La reine Ermintrude, encore plus l'impératrice Judith, des clercs, des poètes, leur ont dédié des poèmes par centaines et centaines de vers. Et alors dans ces vers, on a des descriptions physiques. Vous êtes belle, vous avez les mains blanches, vous avez un teint blanc de lait, il fallait surtout pas prendre le soleil. Vous avez des mains fines qui savent manier le ciseau et l'aiguille. Les reines carolingiennes ont pour tâche, entre autres, de faire du tissu haut de gamme dont elles font des dons dans les églises qui attirent sur la donatrice et sur sa famille des prières et des grâces particulières. Elles savent ordonner une maison, recevoir les hôtes, recevoir les jeunes gens qu'on vient élever au palais pour qu'ils fassent des fonctionnaires ou des évêques et des prêtres de haute qualité. Elles transmettent le savoir à leurs enfants, elles savent lire et écrire, beaucoup mieux que leur mari en général. Cette beauté, vous êtes belle comme était la reine Esther, est-ce qu'on sait comment était la reine Esther ? On sait qu'elle était belle parce que le livre des rois le dit, mais des habits, on en a des descriptions. On sait que, par exemple, dans les assemblées générales qui se tenaient à l'intérieur de la Gaule franque, eh bien, elles étaient habillées à la mode franque. La mode franque, on voit ce que c'est une tunique sur laquelle il y a un manteau. Des tuniques brodées, on en a retrouvé, qui sont dans les tombeaux. Donc, on voit comment elles étaient vêtues. On a déjà quelques peintures sur les enluminures manuscrites, où on voit, par exemple, la reine Ermintrude. J'aime beaucoup Ermintrude. Vous l'avez constaté. On la voit représentée, et aussi la deuxième femme de Charles Chauve, quand Richild, joli prénom, oui, a succédé à Ermintrude, qui était décédée de sa bonne mort, où on voit qu'elle portait ces accoutrements. Et quelquefois, elles étaient habillées à la mode grecque, ça veut dire byzantine, où là, c'était des manteaux beaucoup plus amples, avec des colifichets beaucoup plus importants, avec des sortes de pantoufles, et tout un appareil, un accoutrement censé imiter la mode romaine reprise par les Byzantins. Donc nous avons des descriptions physiques, mais qui ne vont pas jusqu'à l'individualité. Toute reine est réputée belle. Mais certaines le sont plus que d'autres. Il est certain que Judith, par exemple, a été recrutée par un concours de beauté. Quand Louis le Pieux a été veuf, et comme il avait une libido extrêmement active, puisque la testostérone est quand même la grande force historique, qui n'est pas suffisamment traitée, à mon avis, par mes collègues, eh bien, il a fait venir des jeunes femmes de l'aristocratie franque, et il en a choisi une. Mais c'était aussi un modèle byzantin. On sait que Constantin VI, qui a régné juste en même temps, avait fait la même chose avec des jeunes femmes. Mais bref, il a quand même choisi la plus belle parce qu'il s'agit aussi de transmettre à la descendance, masculine et féminine, ce qui va avec la beauté, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire le prestige, c'est-à-dire le fait de... Quand on sort, quand on va dîner en ville avec son épouse, bien, Charles le Chauve est comme tout le monde, c'est-à-dire il aime montrer une reine très présentable, et la reine, comment dirais-je, attire les compliments, concentre l'attention et permet de parader. Et on a des descriptions de parades où le roi et la reine se tiennent par la main. La reine est accompagnée de chevaliers d'honneur qui lui font nombre et cortège. Et on pousse des hurrahs et on crie vive la reine.
La relation entre les hommes et les femmes à cette époque a-t-elle été étudiée? Et quelle est-elle en gros? C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à des barbares qui battent leurs femmes comme plâtre? Ou alors on a déjà un petit côté courtois, comme on dira plus tard?
Vous n'êtes pas sans savoir, Thierry Lenz, que dans les relations entre mes femmes, il y a des invariants, qui d'ailleurs sont au fondement de la condition humaine. Et donc, à mon sens, les invariants sont plus importants que l'écume de ces relations. Mais ce que j'ai pu constater, c'est des attachements forts. Par exemple, Charlemagne a eu des enfants avec Hildegarde, il y en a eu beaucoup. Quand elle est morte, il y en a eu un très gros chagrin. Il est accouru à bride abattue dès qu'il a été prévenu pour assister à ses derniers moments, et il a pu la prendre dans ses bras au moment où elle défuntait du côté de Poitiers. Et il en a beaucoup pleuré, et il a fait une liturgie, il y a eu des offices liturgiques, il y a eu des poèmes qui ont été composés. Mais plus encore, avec les deux reines suivantes, Fastrade et Lutgard, dont les prénoms vous plaisent, eh bien, ils n'ont pas eu d'enfants. Il n'empêche qu'il les a gardés jusqu'à leur mort. Il a été deux fois veuf. Il ne les a pas... Il aurait pu s'éloigner, sans même se les renvoyer. Non, il est resté en contact avec elles, et il a tenu à les avoir près d'elles. Charles le Chauve, Judith et Louis le Pieux ont été très attachés l'un à l'autre. Ça a valu d'ailleurs beaucoup d'avanies à ce couple, parce que, ayant eu un enfant du second lit, les enfants du premier lit se sont rebellés parce qu'on trouvait que les parents, pour le petit chéri dernier, en faisaient beaucoup trop. À tel point que Louis le Pieux et Judith ont été déposés, envoyés l'un dans un monastère, l'autre défait et dépouillé de sa couronne. Ils ont repris finalement le pied. Mais enfin, des relations affectives fortes se sont nouées. On voit aussi Jean le Chauve et sa femme Ermintrude très, très attentifs à l'un de leurs fils qui est handicapé physique. Et ils s'occupent de cet enfant en particulier. Ils le nomment abbé d'une abbaye à Saint-Germain d'Auxerre très puissante. Et ils ne se consolent pas qu'il soit mort si tôt, lui qui était un prince de l'esprit, en dépit de sa contrefaction physique. On voit aussi... le roi Louis IV et la reine Gerberge s'entendent. Oui, ce sont de bonnes relations, pour autant qu'on en sache. Mais évidemment, on n'entre pas dans l'intimité. Mais ce qu'on voit, ce qu'on sait, on voit quelques inimitiés. On voit Charles le Gros brusquement s'en prendre à sa femme, l'épouse, l'impératrice Richarde, et véritablement vouloir s'en débarrasser en l'accusant d'adultère avec un évêque. Puis ça finit par s'arranger. Il y a des conflits nécessairement. Mais est-ce que tous les couples sont exempts, hier comme aujourd'hui, de ce genre de conflits? Mais je dirais, ça n'est pas un problème, et c'est quelquefois une satisfaction de voir que cette relation fonctionne. Et puis le fait qu'ils aient beaucoup d'enfants, ça ne prouve rien, mais ça ne prouve pas le contraire de rien.
Ouais. Et alors, bon, excusez-moi, les enfants sont couchés, il est 20h23, nous sommes sur Radio Courtoisie, une radio à la fois courtoise,
oui,
et bien élevée. Mais enfin, est-ce qu'on sait des choses, par exemple, sur l'amour physique entre les Carolingiens et les Carolingiennes?
Ce qui est intéressant, c'est que, je le disais pour Louis le Pieux, on pourrait le dire aussi pour son petit-neveu Lothaire II, ils affichent leur libido sans complexe. Louis le Pieux, dès que Ermengarde est la première femme de Louis le Pieux, qui décède donc en 819. Et c'est donc, à ce moment-là, Louis le Pieux, qui est déjà quadragénaire, ce qui est beaucoup pour l'époque, dit « Moi, je ne peux pas rester comme ça. Donc trouvez-moi quelqu'un, parce que c'est pas possible.
Ouais. »
Et il le dit, et son biographe le dit tout à fait, non pas crûment, mais comme quelque chose qui va de soi. Lothaire II aussi dit « Moi, j'ai besoin d'une femme, parce que je me suis marié, j'ai pris une concubine avant de me marier parce que véritablement j'en pouvais plus et que ça suffisait comme ça tout seul. Et donc il me fallait quelqu'un. Après, il a contracté un mariage plus légal, si je puis dire. Mais il le dit tout crûment devant l'évêque, devant le pape. On peut pas me laisser comme ça.
Ouais.
Il faut que ça se passe.
Ouais, ouais.
Et on le voit aussi pour d'autres. Alors pour le reste, il n'y a pas de manuel, si vous voulez, sexuel. On dit simplement, on demande de respecter certains interdits. c'est-à-dire la veille du dimanche, la veille de... quand on va communier, il ne faut pas être couvert de ce qu'on a fait la nuit précédente. Pendant le carême, faites attention. Faites attention aussi à vos femmes enceintes. Alors les clercs ne sont pas très forts hein, en gynécologie. Ils ne comprennent pas très bien comment ça se passe. Mais ils savent quand même que les femmes enceintes sont fragiles. Mais les rois eux-mêmes le savent. Et comme ils ont besoin d'une descendance... Non, j'ai l'impression que, ça, que ce, n'est pas, ce ne sont pas des mâles en rut qui, ouais. qui se jettent là-dessus. En plus, ils ont les modèles romains. Ils lisent, ils ont lu Ovid, ils ont lu Tibulle, ils ont lu Properce, ils ont lu même Suétone. Ou s'ils n'ont pas lu, ils se font lire. Et là, je veux dire, les manuels romains, c'est Suétone, ou chez, surtout chez Properce et surtout chez Ovid, l'art d'aimer, ils le connaissent. Et ils voient bien donc qu'il faut une préparation, qu'il y a des travaux d'approche, qu'on ne peut pas faire ça non lins volins. Le viol est quelque chose de puni très sévèrement.
En latin, c'est tout de suite beaucoup plus joli, hein, vous avez remarqué.
Et le viol est très sévèrement repéré. Mmh. Et on a des, pas dans la société royale, parce que, mais on a dans la société de l'élite des femmes qui disent, mais, ouais, qui crient au viol et qui, dont les maris sont châtiés. Il ouais. y a un contrôle de la sexualité et qui n'est pas très différent de celui de la reine Victoria. Mmh.
Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous rappelle que nous recevons Laurent Theis pour un ouvrage épatant, Reine carolingienne, Berthe, Hildegarde, Judith et les autres, dont nous avons égrené les prénoms depuis le début de cette émission. C'est paru chez Perrin et nous en profitons pour parler beaucoup des Carolingiens. Est-ce que... où était le palais royal ou le palais impérial Et puis, question annexe, est-ce que vous pouvez nous définir l'empereur par rapport à, aux autres, le roi d'Italie, le roi des Lombards, etc. Je vous demande juste de réfléchir à votre réponse, parce que maintenant nous avons un message à faire passer à nos auditeurs, et c'est Claudia qui s'en charge, c'est ce que nous appelons entre nous le bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, il est 20h27, presque 20h30, ça fait déjà un bon 40-50 minutes que nous discutons avec Laurent Theis, qui est venu nous voir avec son dernier ouvrage, Les Reines carolingiennes, paru chez Perrin, et nous disions que nous allions en profiter un petit peu pour réviser nos Carolingiens, tout en abordant bien sûr leurs charmantes épouses avec ses prénoms Angelberge, Teutberge, Hermengarde, et j'en passe. Et je vous demandais juste avant le message qui a été diffusé, où est le palais royal, ou le palais impérial? Est-ce qu'il est toujours à Aix-la-Chapelle, y compris après Charlemagne? Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que cet empereur d'Occident? Parce que comme ils sont beaucoup de frères, forcément, on doit partager cet héritage, on le verra au moment de Verdun, etc. Mais voilà, est-ce que vous pouvez essayer de nous rappeler ça? Je dis rappeler parce que évidemment, nous le savons tous déjà.
Bien entendu. Eh bien, je vais essayer. Le palais se trouve là où se trouve le roi. Le palais n'est pas d'abord un lieu géographique, un lieu physique, un site, je peux dire, permanent. C'est là où est le roi, et le roi ne se déplace jamais, sauf exception, sauf chevauché inattendu, ne se déplace jamais sans une cour, sans un ensemble qui comporte la reine assez souvent, pas toujours, les conseillers, les hauts fonctionnaires. Il y a une fonction publique qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, le terme de république, res publica, est employé pour désigner la royauté elle-même, très souvent. On a un sens, autant qu'on peut, de l'intérêt général, de l'intérêt collectif. Donc, il y a les fonctionnaires, il y a les scribes, qui doivent être très nombreux, il y a les prêtres, parce que la chapelle est elle aussi itinérante, qu'on transporte le trésor, ou une partie du trésor, qui est composée de biens matériels, mais aussi de reliques, de livres précieux, de tissus précieux. Les tissus jouent un très grand rôle. Et donc, c'est là, c'est là qu'est le palais. Alors, le palais se déplace de lieu en lieu parce que on ne transporte pas la nourriture avec soi. Et donc, il faut aller de domaine en domaine, par exemple à Thionville, par exemple à Aix-la-Chapelle, par exemple à Saint-Martin-de-Tours, et j'en passe, et beaucoup d'autres, à Saint-Denis, à Francfort, à Ingelheim, bref, et jusqu'à Poitiers, même quelquefois plus loin encore vers le sud, et en emportant ce fourniment avec soi. Et donc, on voit que, par exemple, les diplômes, ce qu'on appelle les diplômes, c'est-à-dire les décrets royaux, sont datés d'un endroit précis. Fait à Poitiers, fait à Thionville, fait à Strasbourg, etc. Donc, le palais est ambulant. Mais il est quand même il y a quand même des lieux qui sont plus fréquentés que d'autres. En particulier ceux où les princes se font enterrer. Charlemagne s'est fait enterrer, s'est fait inhumer à Aix-la-Chapelle. Donc, Aix-la-Chapelle est pleine de la mémoire du trône, des aspects visibles et des aspects spirituels du grand empereur. Et donc, ça devient peu à peu un lieu d'excellence que d'autres de ses successeurs chercheront à imiter. Par exemple, Charles Le Chauve, pour revenir à lui, a tenté, a même réussi, à fabriquer à Compiègne une église vouée à Sainte-Marie, Sainte-Marie de Compiègne, qui a été construite sur le modèle de la chapelle carolingienne d'Aix. Mmh. Donc, c'est un lieu de référence. Également, là où Pépin le Bref s'est fait enterrer, et comme Charles Martel et comme Charles Le Chauve, à Saint-Denis. Donc Saint-Denis est devenu aussi un lieu palatial particulièrement important. Francfort, dont était originaire la dynastie carolingienne, est elle aussi un endroit très important. Ratisbonne est un palais très important parce que ça a été un évêché créé assez tard, par mission, et donc c'est un avant-poste vers les peuplades de l'Est. Donc il y a des palais où le roi revient le plus souvent. Et généralement, il revient selon les saisons. Par exemple, dans la Francie du Nord, au nord de la Seine, c'est dans les Ardennes qu'on va à l'automne, parce qu'on chasse. Pendant 2 mois, on ne fait que ça. On chasse, on chasse, on chasse. Et parce que ça fait de la venaison, parce que ça fait faire du sport, parce que ça, l'aristocratie se ressoude dans la chevauchée, et on chasse d'autant plus le gibier.
Est-ce que ça remplace la guerre ?
Voilà. Vous avez une très bonne intuition, j'allais le dire. À mesure que l'Occident devient de plus en plus chrétien, on a plus de moins en moins de raisons d'aller faire la guerre sous prétexte ou même sous motif sérieux, de les convertir les païens. Donc la chevauchée, la chasse, remplace en grande partie la guerre et ça soude la société aristocratique. Donc il y a des villas qui se retrouvent beaucoup plus fréquemment que d'autres, mais le palais suit toujours le roi. Quand ils prennent de l'âge aussi, ils deviennent sédentaires. À partir de 800-802, Charlemagne ne quitte presque plus Aix. Donc il y restera une douzaine d'années. Et donc, ça devient une capitale et ça devient un palais et où la reine trouve à s'exercer. Parce que quand le roi est en chevauchée ou à la chasse, par exemple, à la chasse, le palais se transporte difficilement. Donc la reine est sur place et elle acquiert un rôle important parce que c'est elle qui fait la continuité du palais pour l'approvisionnement, pour la production d'écriture, pour recueillir les dons et les impôts, etc., etc., pour assurer que le service divin est bien rendu, la reine prend une place importante parce qu'elle est plus sédentaire que ne l'est le roi.
Elle gouverne en quelque sorte, elle est régente, enfin...
Elle est maîtresse de maison.
Para-régente.
Elle est maîtresse de maison au sens fort.
Ouais.
Elle qui dirige la maison, mais la maison, c'est des centaines de personnes.
Ouais.
Et elle a accès à l'argent. C'est elle qui recueille, par exemple, les impôts ou les dons, qui sont les deux faces d'une même monnaie, si je peux me permettre cette expression. Donc, la reine est vraiment une maîtresse. C'est elle qui accueille les autres étrangers, les rois, les reines, les princes, les grands, et qui s'occupe qu'ils soient bien traités, bien lavés, qu'ils aient une bonne hygiène. Donc, très important, l'hygiène. L'eau coule à flot chez les...
Enfin,
aussi. Mais l'eau coule à flot chez les Carolingiens, beaucoup plus que chez les Capétiens qui viendront après.
Oui.
Parce qu'on reprend les mœurs romaines, et quelquefois même les bains romains anciens, on les remet en eau, parce qu'Aix-la-Chapelle était une ville d'eau, ville d'eau romaine.
Et alors, il reste des choses de tout ça, par exemple les tombeaux. Alors on sait, bon, Charlemagne, en fait, il est en petits morceaux un petit peu partout, mais il reste des choses, par exemple, est-ce qu'on sait où est le gisant de Louis le Pieux ?
Alors, à l'époque, il n'y a pas de gisant, mais c'est Saint-Louis, donc au XIIIe siècle, qui a reconfiguré Saint-Denis, par exemple, et a créé des gisants pour les rois. Mais il les a remis à l'endroit où on savait qu'ils étaient. On sait que Charles Chauve a été enterré, inhumé devant la partie gauche de l'hôtel, du grand hôtel de Saint-Denis. On savait où ils étaient, on sait encore aujourd'hui où ils sont, on peut aller les voir.
Et ceux-là, les révolutionnaires ne les ont pas sortis, c'est-à-dire qu'il aurait fallu dépraver.
Ils ont martelé les gisants,
il restait
plus rien là. C'était 1000 ans après, la poudre avait plus douce.
Et les reines, est-ce qu'elles avaient droit à des sépultures majestueuses?
Les reines avaient droit à des sépultures tout à fait visibles. Elles se faisaient enterrer, pas toujours à côté de leur mari. Souvent, elles se sont fait enterrer dans des abbayes, des monastères féminins. Elles en ont créé beaucoup. Il y a beaucoup de monastères féminins à l'époque carolingienne. Beaucoup, beaucoup. Peut-être presque autant que des monastères masculins. Et elles se faisaient quelquefois, souvent même, enterrer dans les monastères qu'elles avaient créés. Car souvent, étant veuves, elles allaient couler leurs derniers jours dans des monastères féminins qui les mettaient à l'abri et qui leur appartenaient.
Et il en reste d'identifier.
Oui, bien sûr.
Hildegarde, par exemple.
Et Hildegarde a été, sauf erreur là, je ne veux pas être trop présomptueux, mais il me semble qu'elle a été ensevelie à l'église Saint-Arnoux de Metz. Saint-Arnoux est l'ancêtre absolu des Pépinettes carolingiens. C'est l'ancêtre absolu auquel on se réfère, qui était un conseiller du roi d'Agobert. Et c'est d'Arnoux que descendent Pépin de l'Antenne d'un côté, Arnoux de l'autre, sont les deux ancêtres que reconnaissent les Carolingiens jusqu'au bout. Mmh. Et donc, c'est dans l'église Saint-Arnoux, à Metz, que Hildegarde est inhumée.
Donc, elle a été inhumée. Pas très loin de Thionville.
Pas très loin de Thionville.
Il faut le dire.
Et inhumée avec tout un apparat considérable. Et des messes ont été dites pendant très longtemps à la mémoire des reines, à l'égal de celle des rois. Alors, vous m'interrogez sur les empereurs. C'était la question.
Voilà.
Je réponds à la question.
Qu'est-ce que c'est qu'un empereur à cette époque-là? Alors, Charlemagne, on comprend parce que son frère est écarté, etc.
Ah non, mais... non, c'est pas la raison.
Non. Alors,
car le frère de Pépin le Bref a été écarté aussi.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cet empereur? Est-il le chef de l'État ou est-il le roi des rois?
Bien, ce serait plutôt la seconde réponse qui serait la bonne. Alors, il faut comprendre que le royaume des Francs est une entité indivisible. Qu'il soit... Je reviendrai après sur l'empereur. Quand on est roi d'Aquitaine, on est roi des Francs. Quand on est roi d'Italie, on est roi des Francs quand même. On est roi d'Italie, qui est une division du royaume des Francs. Car les Francs sont tellement excellents que s'ils sont en Italie, s'ils sont en Espagne, s'ils sont en Germanie, s'ils sont sur les bords de la mer du Nord ou en Bretagne, ça reste des Francs. Si on n'est pas franc, on n'est rien. Il ne se crée aucune dynastie chez les Carolingiens avant la 7e génération, c'est-à-dire la fin du 9e siècle.
Alors, je vous interromps juste, mais c'est quoi un nom franc à l'époque? Comment on reconnaît un nom franc?
On ne le reconnaît pas. On est franc quand on est roi, ou même quand on est aristocrate, parce qu'on descend de franc. Donc, il y a un intérêt très fort porté à des généalogies réelles ou supposées. C'est-à-dire, on s'affilie souvent à des ancêtres francs, l'époque mérovingienne glorieux, alors qu'en réalité...
Mais dans la population, on sait si on est franc ou si on est gallo-romain tardif.
On le sait, si on est franc, si on est alamand, si on est bavarois, si on est italien, si on est aquitain, parce qu'on ressortit de législations différentes. Mais on n'est jamais roi si on n'est pas franc. Ça a fini par se produire, parce que tout change, mais il y a eu une fermeté à garder cet ensemble extrêmement vive. Et c'est pourquoi le royaume des Francs est déclaré indivis, même si on confie à des membres de la dynastie des provinces qui méritent d'avoir un roi, parce que sinon, elles sont ingouvernables. Et alors, à côté, au-dessus, se trouve la dignité. C'est comme dans l'armée. Je crois que vous connaissez un peu l'armée. Bien, on est maréchal, mais maréchal n'est pas un grade.
Ouais,
c'est une dignité. À la rigueur, un colonel pourra être élevé à la dignité de maréchal, comme un laïc peut être, encore aujourd'hui, élevé à la dignité cardinalice. Il y a longtemps que ça ne se produit plus.
Ça n'est pas
du tout impossible, ça n'est pas le même registre. Et bien de même, l'empereur, c'est une dignité. L'empereur exerce un pouvoir supranaturel qui lui est conféré par un sacre particulier. Le sacre des mains du pape a été conféré à certains rois suffisamment puissants pour y prétendre, et c'était ceux qui défendaient le mieux, d'ailleurs, la papauté contre soit les Sarrasins, soit même contre les Bénédventins ou contre des gens qui lui voulaient du mal. Il n'y a pas toujours d'empereur. Il y a un empereur, quelquefois, il n'y en a pas. Par exemple, au début du Xe siècle, il n'y a pas d'empereur carolingien, il n'y en a plus. la dignité impériale carolingienne se perd au tournant des 9e et 10e siècles. Et à partir du 10e siècle, il n'y a pas d'empereur en Occident. Apparaîtra un nouvel empereur en 962, mais ce ne sera plus un carolingien, ce sera un ottonien, ce sera Otton le Grand.
Ouais.
C'est-à-dire...
Donc, Saint-Empire romain, enfin...
Voilà, descendant de la royauté saxonne qui a pris le pas en Germanie sur la royauté carolingienne. Il faut penser que les carolingiens se sont effacés progressivement d'Occident. Les premiers à disparaître, ce sont les carolingiens de Lotharingie, de Lorraine.
Ouais.
La dynastie lotharingienne s'est éteinte avec le roi Lothaire II, donc l'arrière-petit-fils de Charlemagne, et c'est Charles le Chauve qui l'a remplacé, qui était déjà roi de Prusse occidentale. Puis la dynastie carolingienne romaine s'est éteinte en 877. Et il n'y a plus de carolingiens en Italie. La dynastie carolingienne s'est éteinte en Germanie en 911. Et ce sont les Saxons, le père d'Otton le Grand, qui est devenu roi en Germanie. Et ceux qui ont subsisté le plus longtemps, ce sont les rois de Francie occidentale, ceux qui descendent directement de Charles le Chauve en lignée directe, et qui, eux, ont survécu d'abord tant bien que mal, puis ensuite plutôt mal que bien, jusqu'en 987, quand le dernier carolingien est resté sans descendant, et que la dynastie capétienne, depuis 20 ou 30 ans, montait en puissance, comme les Pépinides carolingiens étaient montés en puissance à côté des carolingiens, et avait atteint un degré suffisant de pouvoir pour les remplacer quand la dynastie carolingienne s'est éteinte.
Ouais. Est-ce que ces carolingiens sont rois de France ?
Ils sont rois, certains sont rois de Francie. On dit Francia,
ouais,
et, on, et
ouais.
comme il y en a plusieurs...
Vous voyez où je veux vous emmener ?
Comme il y en a plusieurs...
Est-ce
oui,
que c'est
mais,
la France ?
Mais je ne vais pas y aller tout de suite. Il y a eu concomitamment un roi de Francie occidentale et un roi de Francie orientale. Ouais. Alors, pour les différencier, à l'époque, on a parlé plus facilement de Gaule et de Germanie pour reprendre la nomenclature romaine, celle de Tacite, qui était évidemment beaucoup plus gratifiante que de parler d'Alamans, qui n'était pas grand-chose. Voilà, donc, Francie occidentale est restée Francie. Francie orientale est devenue Germanie beaucoup plus tôt. Alors, je vois, vous voulez m'entraîner, et ça y est, les nations ont des origines, mais n'ont pas de commencement. Donc, il est certain que la France... D'ailleurs, on est roi des Francs jusqu'au 11e, à la fin du 11e siècle, et on commence à devenir roi de France au tournant Louis VI le Gros, Philippe Auguste. Donc on est d'abord roi des Francs et roi de France, mais on a rabattu évidemment très tôt chez les historiens, notamment au Xe siècle, les rois de France, et même mes bons maîtres Sorbonna pensent qu'à partir du traité de Verdun, ou plutôt, 843, soit de la fin du 9e siècle, dans les années 875, 880, on peut parler de France. Parce que les frontières commencent à se définir, on sait un peu où ça s'arrête. La langue se distingue beaucoup. La langue sert à distinguer les nations. L'histoire qu'on écrit, elle cesse d'être commune. Et puis, on se fait la guerre.
Oui, c'est aussi. Et alors, là, une question un peu. Bon, je ne sais pas si elle est vraiment provocatrice, mais Charlemagne, il est français ou il est allemand ?
Il est allemand pour les Allemands et il est français pour les Français. Mais il est.
Est-ce qu'il y avait besoin. Il y a le même statut dans l'histoire allemande ?
Ah non, pas du tout.
Non.
Charlemagne n'a pas du tout la place qu'il a en Germanie, en Allemagne aujourd'hui. Charlemagne est un colosse avec Frédéric Barberousse. En France aujourd'hui. D'abord, on le dénigre un petit peu. Il y a des chansons que vous connaissez, hein, l'école, etc. Bon, il n'a acquis la sainteté que très, très tardivement. Charlemagne, c'est au XIIIe siècle. Il n'a pas la place qu'il tient. Karl der Große, il n'y a pas mieux en Allemagne.
Ouais.
Charlemagne, en France, on préfère Clovis. Et même Capet arrive à lui faire une petite concurrence. il est malgré tout germain. Et au moment de la guerre de 1870, chacun a retrouvé ses billes et on a dit cet épais boucher Charlemagne est en train d'attaquer les descendants de Clovis, qui eux sont les vrais Français. Donc Charlemagne n'a jamais été complètement francisé, si j'ose, c'était une horrible expression, mais et puis son corps, son trône, sa chapelle intacte se trouve à Aix.
pourrait penser que c'est la Gaule. Jules César nous donnait Aix-la-Chapelle.
Mais les Carolingiens de l'Ouest, notamment Charles Chaud, et même ses descendants du Xe siècle, Terre III, ont tout fait pour essayer de récupérer Aix-la-Chapelle. Charles Chaud l'a récupéré pendant quelques années, et puis Louis Germanique et surtout ses enfants l'ont repris. Louis Lothaire l'a pris un moment à Othon, et pendant quelques mois, Othon le Grand n'a plus pu siéger à Aix-la-Chapelle où Charles Chauve s'est installé, et puis il a été expulsé. Ouais. Mais la tentation aixoise, c'était quand même là le creuset de la dynastie.
Et puis nous préférerions habiter Aix-la-Chapelle que Aachen, comme l'appellent les Allemands.
C'est vrai, mais nous habitons Saint-Denis et ça n'est pas si mal. Saint-Denis a remplacé, si vous voulez,
Les premiers rois à Saint-Denis, c'est juste après, c'est...
Alors, les premiers
pendant
rois...
Pendant les Carolingiens
C'est déjà chez les Mérovingiens, puisque Dagobert est le premier roi à se faire enterrer, ensevelir à Saint-Denis. Ensuite, Charles Martel, qui n'est pas encore roi. Pépin. Ensuite, Charlemagne, et Louis le Pieux, c'est en Germanie. Charles le Chauve, dont on voit l'implantation occidentale plus forte. Hein. Il est plus dans la vallée de l'Oise et de la Seine que dans la vallée du Rhin, et encore moins dans la vallée de l'Elbe. Donc, à partir de là, on se sépare. Les rois de Francie orientale sont à l'Est, et les rois de Francie occidentale sont à Saint-Denis, presque tous.
Ouais.
Et ils y sont encore, ils y seront jusqu'à Charles X.
Alors, on revient aux femmes. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous parlons du livre de Laurent Theis, « Reine carolingienne », qui vient de paraître chez Perrin. Vous consacrez quand même un gros chapitre à la religion. Très probablement parce que la documentation est plus importante, j'imagine, hein, sur ces sujets.
Ce sont les clercs qui écrivent.
Et alors, quel est le rôle religieux, on va dire, de la reine à ce moment-là? D'abord, est-ce qu'on l'appelle la reine?
On l'appelle... Alors, il y a deux... Il y a toute une nomenclature. D'abord, la reine est la femme du roi. Donc, il faut que je parle un peu latin, mais je vais essayer de faire le moins possible.
Je vous en prie. Les auditeurs de Radio Courtoisie parlent couramment latin.
Alors, je vais faire le mon pédant. Ça m'est assez facile. femme se dit mulière. Mulière, si on veut prendre la... Mulière, c'est assez péjoratif. C'est une femme.
Ouais.
Si on l'épouse, elle devient uxor. Alors ça,
là, c'est déjà mieux.
C'est une promotion. Et puis, si ça s'avance encore, elle devient consort. Reine consorte, je peux dire. La reine consorte, c'est-à-dire... Ouais. Associée au règne. Et elle devient Regina, la reine. Et le fin du fin, c'est Augusta, l'impératrice. Il y a davantage d'empereurs que d'impératrices. Je veux dire par là qu'on n'est pas impératrice parce qu'on est la femme d'Auguste, la femme de l'empereur. Ouais. Il faut recevoir une consécration spéciale. Et là, je ne pourrais pas citer plus de 4, 5 peut-être reines franques qui sont devenues impératrices, je dirais, de plein exercice.
Ouais, ouais.
Donc cette fonction idéologique, très forte. Et elles ont un rôle très important parce qu'elles servent d'intermédiaire pour les évêques, les grands abbés et pour les papes pour influencer les décisions prises par leur mari. Notamment dans ce grand mouvement qui est celui de la christianisation. Et la christianisation, ça veut dire qu'on donne tout ce qu'on a, ou le plus possible, en richesse matérielle, en richesse en pouvoir politique, à l'Église, charge pour elle de transmuter ses biens matériels et politiques en biens spirituels pour acheter, de certaine manière, le sort de l'âme royale. Donc la conversion de biens matériels en biens spirituels, c'est la fonction de l'Église. Et pour y arriver, il n'y a rien de mieux que sur l'oreiller, pour caricaturer un peu, les femmes insinuent, suggèrent que tel abbé nous a dit que il manquait d'esclaves, il manquait de troupeaux, il avait besoin de reconstruire, de mettre une toiture à son église. Ce serait bien le moment parce que cette abbaye-là, elle a des prières excellentes qui nous profiteront à nous parce que le plus important, c'est d'aller vers la Jérusalem céleste et de s'arracher aux turpitudes de ce monde. Et le roi écoute et recoute la reine, la reine fournit des dossiers, quelquefois écrits, et sert d'intermédiaire. Et elle est donc très courtisée par les évêques, les abbés et par le pape. Nous avons des correspondances entre les reines, des correspondances autonomes, si je puis dire, entre les papes et les reines. Et on lit que le pape dit à sa très chère fille, insiste auprès de ton très cher fils pour qu'il vienne à Rome nous secourir contre les Sarrasins, insiste auprès de ton cher, très, très cher fils pour qu'il il confère l'épiscopat à tel de nos fidèles que nous aimons particulièrement, fait en sorte que nous ne soyons pas démunis lorsqu'il s'agit d'embellir l'autel de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il y a donc tout un jeu important. Et elles travaillent aussi pour elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles essayent, elles parviennent souvent, à attirer les donations royales vers les monastères qu'elles créent ou qu'elles patronnent. Et enfin, aussi, elles promeuvent, elles diffusent la culture ecclésiastique par leur fréquentation des monastères masculins ou féminins, par leur rapport avec les moines, par les grandes lectures qu'elles entreprennent des pères de l'Église, beaucoup plus que le roi qui a autre chose à faire, et qui donc, elles entretiennent un climat, une atmosphère religieuse qui naturellement, en fait, soit on ne conçoit pas, sauf être une créature du diable, qu'on puisse être en dehors de du christianisme. Mais il y a des chrétiens qui sont quand même, qui sont tous égaux devant le Seigneur, mais qui certains sont plus égaux ou plus égales que d'autres, et sont mieux placés envers la divinité pour faire circuler de haut en bas le flux qui ensuite permet de repartir de bas en haut. Elles sont des fluidifiantes, au fond. Elles sont fluides.
Est-ce qu'il y en a qui ont été saintes?
Une, mais que vous ne priez pas souvent, quelque pieux que vous soyez, cher Thierry Lenz, c'est Richard.
Ah oui,
Richard a été...
Elle m'avait échappé.
Voilà, Richard qui a fondé le monastère d'Andelot, dans ce monastère d'Andelot qui est sur les bords du Rhin, un culte a été rendu à sa mémoire, et elle est devenue une scène d'intérêt régional. Et une autre aussi qui s'appelle Oda, ou Ita, qui a été, par sa piété, remarquée. Mais on n'a pas de grande sainte, mais on n'a pas de saint non plus.
Ouais.
Parce que même Charlemagne, c'est extrêmement tardif. Et, ça n'est
et
plus,
Saint-Louis, c'est un peu en secouant le pape, quoi, hein, si l'on peut dire.
C'était quand même nettement plus facile, parce qu'à l'époque, il faut bien concevoir que la sainteté ne se décrète pas, elle se proclame. C'est-à-dire que quand dans un monastère, quand dans une église, on commence à aller visiter la tombe, on commence à mettre la main dessus, que quand on avait la main sèche, on repart avec la main guérie, on se dit quand même là, il y a une concentration d'atomes particulièrement efficace. Donc peu à peu, la rumeur se présente. Quand un pèlerinage s'organise, alors la personne vers laquelle on se propulse acquiert des grâces, des vertus, qui se transforme en sainteté. Mais ça n'est pas il n'y a pas de consécration, il n'y a pas les autorités n'ont aucun pouvoir là-dessus.
Alors je sais que vous avez été président de la Société d'Histoire du Protestantisme, mais je vous pose quand même la question, est-ce que la liturgie est bien arrêtée à ce moment-là? Est-ce qu'elle est, on va dire, définitive? Est-ce qu'elle est semblable à ce que nous connaissons aujourd'hui?
Ça a été une des grandes préoccupations de Charlemagne et de Louis le Pieux, c'est d'unifier la liturgie. Il y a une liturgie romaine, naturellement, qui a été consacrée par le pape Grégoire le Grand au début du VIe siècle, qui vaut jusqu'à la frontière des Alpes. Il y a une liturgie aquitaine, une liturgie gauloise, avec des chants, des musiques aussi, des gestes et des paroles qui ne sont pas unifiées. Ça a duré ça jusqu'au milieu du VIIIe siècle. Puis à partir de là, il est apparu pour légitimer la dynastie qu'elle-même devienne maîtresse de la liturgie. Parce que quand on contrôle la liturgie, on contrôle beaucoup de choses. On contrôle ces flux spirituels dont je parlais, mais on contrôle aussi l'exercice de la fonction de prêtrise, la fonction presbytérale, la fonction épiscopale. Et comme les évêques sont l'armature des royaumes, sans évêques, tout va en déliquescence, eh bien, si on tient les évêques, si on a avec eux des relations, non pas d'autorité, mais qu'on a au fond, un consensus, un collectif, eh bien, les choses à l'intérieur du royaume se portent beaucoup mieux. Et l'effort de liturgie a donné lieu à des centaines et des centaines de psautiers, de traités très importants qu'on a conservé beaucoup. Et la liturgie carolingienne, elle était célébrée encore à Saint-Denis dans le courant du XVIIe siècle.
Ouais. Et l'empereur ou le roi participe à la nomination des évêques. On est déjà dans un pré-gallicanisme.
Ah, tout à fait. Le roi désigne et l'évêque ou le pape sanctionne. Alors, quelquefois, il y a des discussions. Parce que, d'ailleurs, il arrive par exemple que la reine est un candidat, que le roi n'admet pas. Il y a des récits très drôles où le chroniqueur d'époque, de la fin du IXe siècle, dit qu'il a fallu que la reine Hildegarde, par des chatteries dont les femmes, par des caresses quelques-unes très osées réussissent à obtenir de son cher mari qu'il désigne le clerc dont elle voulait qu'il accéda à l'épiscopat, je crois que c'était celui de Beauvais à l'époque. Donc, on a sur le vif le choix emporte pas seulement des vertus ecclésiastiques, mais aussi du pouvoir, parce que les évêques eux-mêmes sont des grands aristocrates, ils ne sortent pas de n'importe où.
Eh bien, Laurent Theis, dans quelques secondes, on va terminer cette émission au son de la marche des Mirlitons de Casse-Noisette, qui est un peu notre hymne. Je vous remercie d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Vous publiez ces jours-ci Reine carolingienne, Berthe, Hildegarde, Judith et les autres, 751-987, aux éditions Perrin. Et comme vous êtes aussi éditeur, le Moyen-Âge a toujours son public. C'est une période qui est d'abord probablement beaucoup étudiée dans le supérieur, j'imagine, parce que c'est un exercice intellectuel valorisant.
On peut constater que l'époque médiévale n'a jamais été négligée depuis le XIXe siècle. Le XIXe siècle a relancé un Moyen-Âge que l'époque moderne, les historiens modernes, avaient complètement négligé, sauf pour s'en moquer. Hein. Chez Voltaire, on se moque des Carolingiens tout au long du dictionnaire philosophique. À partir d'Augustin Thierry, donc les années 1820, dans ce qu'on appelle la mode troubadour, les Carolingiens réapparaissent, et ils réapparaissent d'abord sur un mode, je ne dis pas folklorique, mais très littéraire en tout cas, et artistique. Hein. On redécouvre le gothique, on redécouvre le Moyen-Âge, et puis peu à peu la science s'en est emparée, et du coup de très grands médiévistes en Allemagne et en France ont remis le Moyen-Âge sur les rails de la curiosité publique en lui donnant des bases scientifiques et aussi du bonheur de plume, en associant des érudits très savants à des gens comme l'auteur des Rois maudits, hein, que vous connaissez. Donc le Moyen-Âge se porte bien.
Alors, il nous reste 5 secondes pour dire au revoir à nos éditeurs. Merci Laurent Theis d'être venu.
Merci Thierry Lanzi.
Votre livre, c'est « Reine carolingienne chez Perrin ». Je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie dans un mois avec un nouvel invité. Je vous souhaite une très bonne nuit, Laurent.
Merci Thierry.
Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir dirigé par Thierry Lenz, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 27 avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.